Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche, animée par Marc-Christine de Vels, à la technique Simon Martin. Et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Christian Mercier. Bonjour Christian.
Bonjour Marie-Christine.
Donc la dernière fois, vous nous avez parlé de Luther, du côté historique. Et aujourd'hui, vous allez voir avec nous l'influence des protestants sur la société, c'est cela ?
Tout à fait. Je vais essayer de vous parler de l'héritage de Luther et au préalable de brosser un historique des 500 ans qui sont écoulés. Mais je vous rassure, ça sera des dates significatives, des dates symboles et pas évidemment par le menu les 500 ans. Donc vous avez entendu de Mendelssohn toujours, je dis toujours parce que j'en avais parlé la semaine passée, de Mendelssohn un choral tiré de sa symphonie numéro 2, Lobgesang, donc chant de louange, qui s'appelle donc le Nun dankend dem Herrn, donc maintenant remercier le Seigneur. Et pourquoi j'ai choisi cette symphonie, c'est parce que Mendelssohn l'a écrite à l'occasion des 400 ans de la découverte de l'imprimerie. Donc l'imprimerie a été découverte en 1535 et Mendelssohn a été requis pour, enfin requis, on lui a demandé de composer une symphonie et ça a été un très très grand événement et il l'a composée et interprétée en 1835. Alors parlons des 500 ans de réforme et de l'héritage et d'actualité et d'abord quelques chiffres. Actuellement dans le monde entier, il y a grosso modo, d'après les statistiques que j'ai lues, 1,1 milliard de catholiques. Et en face, si l'on peut dire, ou à côté, je vais dire à côté, je préfère, vous avez 810 millions de protestants qui sont en majorité évangéliques. D'innombrables courants de protestants parmi ces 810 millions. En France, le pourcentage des protestants, c'est entre 2,5 et 3% de la population, donc grosso modo 2 millions et demi. Et parmi eux, 600 000 de l'Église de Protestante Unie, donc qui est l'Église réformée et luthérienne. Luthérienne est réformée depuis 2013, elle est unie pour cette raison, et 600 000 évangéliques. Quelques dates historiques. En France, 1534, l'affaire des placards sous François Ier, qui a déclenché une profonde ire de François Ier et des persécutions contre les protestants, parce que avait été placardé, non pas sur le château de Wittenberg, mais sur le mur de la chambre à coucher de François Ier, des thèses condamnant la messe des papistes, des propos très très virulents. Les 8 guerres de religion qui ont malheureusement tristement animé les années 1562 à 1598, au milieu d'elle, le 24 août 1572, la fameuse Saint-Barthélemy à Paris. Et puis, heureusement, le 30 avril 1598, l'édit de Nantes, qui a été signé par Henri IV, qui est, comme vous savez, le seul roi de France à avoir été sacré à York à Reims, et il a été à Chartres en 1594. On peut dire peut-être qu'Henri IV était le premier laïc, même si le terme est évidemment anachronique, le premier laïc de l'histoire française. 1685, la révocation de l'édit de Nantes par ce qu'on appelait l'édit de Fontainebleau, sous Louis XIV, qui a provoqué l'émigration de nombreux protestants, de l'ordre de 300 000 à 800 000 personnes. Ça a été non seulement, évidemment, pour les protestants, une ère de persécution qui s'est ouverte, mais ça a été pour le pays, et tous les historiens s'accordent aujourd'hui à le reconnaître, une grande erreur économique, parce que les protestants étaient des gens qui avaient dans la société des places importantes, c'était des gens instruits, qui lisaient la Bible, ils savaient lire, et ils savaient également les ressorts du commerce. Et ils sont partis enrichir, si je puis dire, les protestants, les Pays-Bas, la Prusse, l'Angleterre, que sais-je. Fin du XVIIe siècle, les dragonnades dans les Cévennes, les dragonnades qui ont été organisées par Louis XIV, qui envoyait ses dragons pour faire la chasse aux parpaillots. Les parpaillots, c'était le nom dont ils étaient affublés, qui en fait représentaient des papillons noirs. Et papillons noirs parce que les protestants partaient au crépuscule dans des grands manteaux noirs pour ne pas être vus et allaient célébrer leur culte la nuit. Protestants qui étaient soit carrément tués, soit envoyés aux galères. 1787, sous Louis XVI, un édit de tolérance, c'est-à-dire que Louis XVI revient sur l'édit, la révocation de l'édit de Nantes de son lointain ancêtre Louis XIV. 1789, révolution et liberté de culte affichée parmi les grands principes républicains. Je saute, je ne vous parle pas du Concordat, je passe à 1885. Pourquoi ? Parce que c'est la loi qui promeut l'école laïque publique gratuite et obligatoire, la loi de Jules Ferry, qui a été également suscitée par un grand protestant laïque, Ferdinand Buisson, une école qui ensuite sera étendue aux filles. Derrière cette loi républicaine, il y a une influence protestante évidente, même si elle n'est pas dite très clairement, mais... tout ça, l'instruction, c'est le retour à la lecture. La lecture, c'est la lecture de la Bible. Il y a évidemment là un rattachement évident à Martin Luther. 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui a donc promu la laïcité, même si ce terme n'est pas employé dans la loi. C'est depuis lors qu'on parle de laïcité. Et c'est une loi qu'on connaît mal. Et je me permets de lire un des articles fondateurs de cette loi, que beaucoup de personnes politiques semblent méconnaître allègrement, alors que tout de même le retour au texte, c'est un réflexe non seulement de juriste, mais de luthérien, peut-être. Le texte Sola Scriptura, que dit un des articles de cette loi, « L'État reconnaît la liberté des cultes, s'interdit de les subventionner, et il y a un ajout qu'on oublie toujours, et s'engage à les protéger. » Donc toutes les religions, sans exclusive. Il y a la catholique, il y a la protestante, il y a l'orthodoxe, il y a la musulmane, etc. Donc, vous avez compris que la loi de séparation va bouleverser les choses. Les protestants vont perdre 800 écoles. Il y avait à l'époque un enseignement catholique et un enseignement protestant, un enseignement catholique prépondérant, bien sûr. Mais les protestants vont perdre, j'allais dire... pas allègrement, mais ils vont être cohérents, puisque cette loi a été également promue et largement innervée par des protestants, cette loi de séparation. Ils vont perdre 800 écoles, mais ils vont la soutenir parce que cette loi promeut le laïc qui est détaché de la tutelle du clergé. Là, c'est encore une idée protestante. Subitement, l'instruction n'était plus le privilège, l'apanage du clergé. L'instruction était dispensée par d'autres personnes que des ecclésiastiques ou des membres du clergé. Et puis j'en viens à des événements très réconfortants, là je saute un siècle, c'est par exemple le 22 septembre 2017, un colloque sur les 500 ans de la réforme, avec réception à l'Élysée du président de l'EPU, l'Église protestante unie, et ce propos d'Emmanuel Macron, que je cite, « La laïcité n'est pas la négation des religions. » Ce qu'on peut peut-être entendre, ce qui combat ce que j'appelle l'intégrisme laïque, qui vient dire, en somme, la religion, ça pue, il ne faut surtout pas en parler, on prend ça avec des pincettes, on ne sait pas ce que c'est, on veut l'ignorer. Pas du tout. La laïcité n'est pas la négation des religions. Ça rejoint le texte que je vous lisais de la loi de 1905. « L'État s'engage à protéger les religions. » Et puis vous avez également en 2017 cette réconciliation, et je voulais terminer cet historique par là, parce que c'est quelque chose d'extrêmement réconfortant et d'apaisant, la réconciliation entre les catholiques et les protestants, avec une reconnaissance œcuménique par le pape François, qui s'est déplacé à Stockholm pour justement, à l'occasion des 500 ans des thèses, donc c'est vous dire à quel point l'Église catholique a beaucoup cheminé pour aller ou pour renouer le dialogue. Le débat foi-œuvre qui opposait donc ceux qui disaient on est sauvé seulement par la foi et ceux qui disaient non, on est sauvé par les œuvres, ce débat se clôt par un texte qui est commun. Qui vient dire que la foi n'est pas exclusive des œuvres et que, bien sûr, les œuvres ne sont pas exclusives de la foi. Enfin, il y a là un rapprochement. Je n'ai pas le temps suffisant, bien sûr, pour en parler, mais je voulais simplement dire que ce rapprochement est extrêmement, comme je le disais, apaisant et soulage, et qu'il soulage. Et peut-être les deux religions peuvent se dire que la foi, la grâce gratuite, eh bien, c'est la meilleure arme. Je voulais terminer ce propos d'historique là-dessus. C'est peut-être la meilleure arme contre le terrorisme. Pourquoi ? Parce que le terrorisme s'est fondé sur la loi. Vous savez, cette fameuse loi impitoyable qui faisait tant peur au Moyen-Âge, le dieu justicier, le dieu qui condamne, le dieu qui envoie aux enfers. Cette loi qui s'appelle Torah chez les juifs et Karia chez les musulmans, chez les pratiquants du Coran, c'est une loi qui en somme érige le mérite. On conquiert son paradis ou sa félicité suprême en respectant la loi. Et donc, au motif que cette loi existe, parce que cette loi existe, on va la respecter, et seulement la respecter, et dans tout ce qu'elle peut dire de violent, peu importe, le tout, c'est de la respecter. Donc vous connaissez cette application pratique de certains intégristes islamistes, des terroristes, qui est, de toute façon, tuer un infidèle, c'est une bonne chose. Primo, ça permettra à l'infidèle d'aller au paradis tout de suite, parce qu'il aura été tué par un musulman, et deuxièmement, le musulman, lui, conquérera son paradis avec 77 vierges à la clé. Donc tout ça est contraire, évidemment, au message de miséricorde de la justice de Dieu que Luther a voulu a trouver dans la Bible, et au contraire à ce message du salut par la foi seule. Bien, vous venez d'entendre à nouveau un extrait de cette symphonie numéro 2, Lobgesang de Mendelssohn, donc la fin de ce mouvement Nun dankend dem Herrn. Mendelssohn était un musicien hors pair, assez méconnu et apprécié de nos jours, et c'est un tort parce que c'est vraiment quelqu'un qui était non seulement un très très grand compositeur, mais qui était animé d'une foi profonde. Alors voyons maintenant comment le luthéranisme, si l'on peut dire, Luther et ceux qui l'ont suivi, et n'oublions pas Calvin, bien sûr, pour les réformés, les protestants réformés, comment ce protestantisme a, mine de rien, innervé la société et l'économie même et combien ce protestantisme innerve encore notre société. Alors je dirais que dans le mouvement de Luther, il y a tout d'abord une sorte de libération individuelle, libération de la personne. Luther a entrepris quelque chose d'absolument intolérable pour l'époque, c'est de s'opposer seul à toute une hiérarchie, à toute une tradition. Quand bien même a-t-il voulu au départ réformer de l'intérieur, parce que c'est ce qu'il voulait au départ, il pensait que pour lui c'était tellement évident ce message libérateur de la grâce, gratuite, par la foi, qu'il pensait que tout le monde en viendrait à avoir la même conception. Malheureusement, il a échoué et donc il s'est trouvé face à sa conscience, c'est ce qu'il a indiqué lors de la diète de Worms, je ne peux pas renoncer à ce que me dicte ma conscience, donc sa conscience contre tout ce qui était érigé et contre toute une tradition de l'Église. Donc il s'est opposé à la tutelle, quelle qu'elle soit, la tutelle du clergé, la tutelle féodale, pour mettre en avant la personne, l'indépendance, l'autonomie, la conscience, l'individu. Donc libération de l'individu, individualisme qui fait que la créature va répondre directement de ses fautes ou directement de sa foi auprès du créateur sans intermédiaire. Il y a donc une évidente libération et une promotion de l'individualisme. Ça, c'est, me semble-t-il, un premier héritage de Luther. Bon, bien sûr, il n'était pas le seul. À l'époque, vous aviez bien sûr l'humanisme qui était une grande école, Erasme, Lefèvre d'Étable, etc. Mais donc la Renaissance, bien sûr, fait partie de ce mouvement. Mais Luther en est un principal parce que lui, il l'a érigé comme un principe dans sa réflexion sur la foi et sur la relation à Dieu. Autre héritage de Luther, l'instruction. S'il a traduit la Bible en langue allemande, c'est parce qu'il voulait qu'elle soit lue par les Allemands, donc que la lecture soit favorisée. Et cette instruction, cette volonté de faire partager le savoir au plus grand nombre de personnes, ben on l'a retrouvée dans la société française avec cette loi de 1885 sur l'instruction publique obligatoire et gratuite, qui a été ensuite ouverte aux filles aussi, ça aussi. La femme n'est pas la subalterne de l'homme. La femme, c'est une conscience. Donc elle a droit aussi à l'instruction. Donc la femme ne doit pas être toujours derrière ou quelqu'un de subalterne. Donc liberté de conscience, mais conscience. Autrement dit, une rigueur qu'on s'impose et non pas une rigueur qui vous est imposée. Alors à partir de cette libération, par la force du vocabulaire, on va vers le libéralisme en matière économique. Et le libéralisme anglo-saxon, donc avec tout ce qui est libération à l'égard de l'argent. Certains sont venus dire que le calvinisme, enfin le luthéranisme et le calvinisme étaient à l'origine du capitalisme, il y a eu beaucoup de thèses à ce sujet. Il doit y avoir une part de vrai, c'est vrai qu'on a ouvert un peu la société et l'argent n'est plus devenu diabolique. L'argent pouvait produire des intérêts. L'argent n'était plus réservé à l'usure pratiquée par les Juifs. Alors, vous avez d'ailleurs, chez les anglo-saxons, une dérive incroyable. Chez les méthodistes américains, les méthodistes, ce sont une secte protestante américaine, enfin une secte, un courant, on va dire un courant. Eh bien, c'est la réussite qui est le signe de la bénédiction et de l'amour de Dieu, la réussite matérielle. Donc on est loin de la tradition française où la réussite matérielle est au contraire regardée d'un très mauvais œil. Ceux qui réussissent, c'est fatalement des escrocs, des malhonnêtes. Non, non, là-bas, c'est l'inverse. C'est parce qu'on est béni de Dieu que l'on réussit. Donc, je vous l'ai dit, l'argent n'est plus le diable. L'argent peut faire progresser. Et de là, conjugué avec cette découverte des Amériques, puisque Christophe Colomb a, en 1492, découvert les Amériques, avec toute cette ouverture vers le commerce, vers le mondialisme, si je parlais un vocabulaire contemporain ou du moment, cette ouverture, tout cela s'est conjugué pour que l'économie se développe et pour qu'on sorte du monde féodal. Autre caractéristique importante de Luther, me semble-t-il, c'est justement cet esprit de conscience personnelle, mais qui conduit parfois à la résistance personnelle. Le protestant, c'est souvent un résistant, mais c'est un résistant qui n'est peut-être pas aussi provocateur, heureusement d'ailleurs, que Luther, mais c'est quelqu'un qui sait résister parce qu'il a des convictions. Il a des convictions personnelles et il veut les défendre. Et parfois, pour les défendre, il est obligé de résister. Bon, quand vous lisez l'historique des dragonnades et des persécutions sous Louis XIV dans les Cévennes, vous pouvez vous rendre compte à quel point cet esprit de résistance était chevillé dans les âmes des protestants de l'époque. Esprit luthérien... qui est, alors là c'est peut-être un paradoxe, la tolérance. Alors la tolérance, pourquoi ? Alors, Luther n'était pas tolérant avec ceux qu'il appelait les papistes. Mais il n'empêche que dans la tradition protestante, le fait d'avoir été si longtemps persécuté a au contraire ouvert aux protestants un esprit vers les autres. Donc un esprit de tolérance pour justement les autres cultes, et les protestants ont été assez ouverts, alors pas Luther, parce que lui il était anti-juif, si je puis dire, jusqu'aux racines, mais les courants actuels, c'est une grande ouverture au judaïsme et aux autres confessions, parce que, eh bien, après tout... nul ne peut prétendre être détenteur d'une vérité absolue. Je crois qu'il y a une sorte de conviction des limites de chacun et ce qui conduit à la tolérance. Cette tolérance a d'autres conséquences, l'accueil. L'accueil, et on en a encore une illustration récente, l'accueil des migrants. Bon, vous avez l'accueil des migrants qui a été largement développé en Allemagne, bon, pour des raisons économiques sans doute, mais également parce qu'Angela Merkel, fille de Pasteur, vivait en Allemagne de l'Est, qu'elle a été marquée dans sa jeunesse par le mur qui séparait les deux Allemagnes, et parce qu'elle a été exclue un moment. Donc vous voyez que dans l'histoire de chacun, il peut y avoir des applications ultérieures. Donc Angela Merkel très ouverte aux migrants, elle est maintenant un peu moins pour des raisons politiques, mais les protestants aussi, le mouvement protestant français très ouvert vers les migrants et qui regrette beaucoup que les Français se recroquevillent sur eux-mêmes, alors même qu'ils auraient peut-être l'intérêt n'est pas le bon mot, il vaudrait mieux qu'ils accueillent les migrants et qu'ils partagent leurs difficultés. Alors cet accueil ouvert, eh bien, il est également en direction par exemple des divorcés. Pourquoi ? Parce que le mariage n'est pas un sacrement, donc les protestants n'ont jamais refusé ou exclu les divorcés de la communauté. On n'exclut pas un divorcé de la Sainte-Cène. Ça n'est pas forcément le cas, malheureusement, pour les divorcés catholiques. Ils sont exclus de l'Eucharistie. On n'exclut pas les homosexuels. On n'exclut pas les femmes. Et bien sûr, comme on n'exclut pas les femmes, eh bien, il y a les femmes pasteurs. À Chartres, nous avons une femme pasteur, c'est la troisième depuis une trentaine d'années. Voilà, et puis alors, dans cette application pratique, si je puis dire, du protestant, enfin du luthéranisme, vous avez un engagement important de chacun, notamment dans les sociétés caritatives. Vous avez l'armée du salut, bien sûr. Le type même de l'engagement du protestant, celui que j'aime beaucoup et qui m'a frappé dans mon enfance, c'était celui d'Albert Schweitzer, qui était donc pasteur et médecin et qui partit à Lambaréné pour fonder son hôpital. Un grand musicien aussi, un grand organiste qui jouait Bach et qui avait une manière de l'interpréter qui lui était très personnelle. Albert Schweitzer, c'est le type même de l'engagement du protestant. Quelqu'un qui lâche tout, et parce qu'il a des convictions et parce qu'il veut se mettre en conformité avec ses convictions. Alors, vous avez donc chez le protestant à la fois de la rigueur, de la résistance, mais également une certaine réserve et une certaine pudeur. C'est-à-dire que le protestant ne veut pas forcément, dans la société civile, se revendiquer comme tel. Vous avez un grand nombre d'hommes politiques qui étaient protestants et qu'on méconnaît peut-être. Je vais en citer quelques-uns. L'actuel président du Sénat, Gérard Larcher, est protestant. Il ne le clame pas sur les toits. Vous avez eu des premiers ministres protestants, vous avez eu Couve de Murville, Michel Rocard, Lionel Jospin, en tout cas Lionel Jospin avait des origines. Vous avez des ministres, Gaston Defer, Pierre Jox, Louis Mermaz, etc., etc. Et puis des grandes familles, de chevaliers d'industrie protestante que vous connaissez certainement, Michelin, Peugeot, Schlumberger, Les Banques, Audière, Metz, Lefebvre Utile, Vandel, etc. Tout ça, ce sont des organismes qui sont créés et qui sont animés par les protestants qui ne revendiquent pas leur religion parce qu'ils estiment qu'il y a un temps pour tout et un lieu pour tout. Et donc ça fait partie de la réserve. Alors, je voudrais terminer par quelques mots sur Paul Ricoeur, parce que Paul Ricoeur, ça nous fait le lien avec notre actuel président de la République. C'est tout de même assez amusant, si l'on peut dire. Paul Ricoeur, vous savez que c'est un philosophe protestant. Alors, je ne vais pas vous résumer la pensée de Paul Ricoeur, je m'en voudrais, je ne le connais pas bien. Mais ce que je sais, c'est qu'il a été amené à rédiger un ouvrage qui s'appelle « La mémoire, l'histoire et l'oubli », et qu'à cette occasion, il a connu Emmanuel Macron, qui lui a rédigé les 600 notes de son ouvrage, « La mémoire, l'histoire et l'oubli ». Il a fait connaissance d'Emmanuel Macron à un moment où peut-être il avait besoin de trouver quelqu'un, un jeune, qui vienne l'aider. Il avait perdu son fils, Paul Ricoeur, semble-t-il. Il avait dû se donner la mort. Et donc, il a trouvé chez Emmanuel Macron un interlocuteur qu'il a adopté, au moins affectivement et intellectuellement. Et donc, qu'est-ce que c'est la pensée de Paul Ricoeur? À gros traits, c'est une pensée qui assume ce qu'on appelle l'action imparfaite. Le geste imparfait. Donc la réalité est complexe. La réalité, c'est le « en même temps », c'est-à-dire un ensemble de choses hétérogènes qu'il faut essayer de coordonner. Donc on essaie de corriger cet ensemble de choses hétérogènes l'une par l'autre et on essaie de créer de la fécondité à partir des dissensions. Voilà cette philosophie qui est peut-être effectivement en application par l'actuel hôte de l'Élysée. Il ne s'agit pas de concilier l'inconciliable, il s'agit de rechercher une méthode pour aboutir à des solutions qui ne sont pas évidentes, qui sont complexes. Voilà, donc je pense avoir à peu près terminé mon propos, un peu hâtif sur certains points. Je voulais simplement dire aussi que Emmanuel Macron a peut-être eu une démarche protestante dans sa jeunesse. Vous savez qu'il était élevé chez les jésuites, mais il est né dans une famille agnostique, en tout cas pas pratiquante. Eh bien, il a demandé le baptême à l'âge de 12 ans. Donc, vous voyez, il y avait là déjà une réflexion qui est un peu particulière, qui n'entre pas dans la norme de l'enseignement ou de la tradition catholique. Donc, il a peut-être des petits dehors ou travers, je ne sais pas, protestants, qui lui viennent, parlons de notre sujet, lointainement de Martin Luther.
Merci Christian, j'espère que tu nous as aidé à comprendre la pensée protestante. Voilà, au revoir et à bientôt.
Nous terminerons par Bach et par un Alléluia tiré du motet que je vous ai cité la semaine passée, L'Aube den Herrn alle Heiden.